Nous voici en direct au téléphone avec Jacques Sivan. Bonsoir Jacques, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir.
Alors Jacques, nous allons donc parler de ce livre « Simili Jacques » que tu as fait paraître l'année dernière aux éditions Aldante. Ma première question générique, première question générale, comment présenterais-tu « Simili Jacques » ?
Simili Jacques, c'est un livre qui réfléchit sur la question du sujet. C'est une question qui a toujours été l'objet de mon étude depuis les années 70 où cette question était cruciale et où il me semblait qu'elle était peut-être pas forcément très bien posée parce qu'on allait d'un excès à l'autre, soit c'était le sujet un sujet très repérable, très unifié, sujet originel, soit c'était au contraire on essayait de le nier absolument. C'était une sorte de d'où le mouvement objectiviste, des réflexions comme ça où le sujet est absolument où on a tenté en tous les cas de d'absenter totalement le sujet. Voilà, donc moi ma réflexion s'est acheminée un petit peu entre ces deux voies et pour moi c'était j'ai cherché à faire en sorte que le sujet n'était pas finalement une instance, mais était essentiellement une contextualité. C'est-à-dire qu'on est fait d'une hétérogénéité de moments, de mémoires, de toutes sortes de circonstances et de désirs qui nous habitent. Et voilà, donc c'est faire fonctionner un petit peu toutes ces strates qui nous agissent et qui agissent aussi autour de nous, qui font que nous transformons le réel qui nous entoure, inversement, les réalités aussi environnantes qui elles-mêmes agissent sur nous. Voilà, c'est un petit peu ça ma recherche.
Est-ce donc pour cette raison-là que tu injectes un personnage dans Simili Jacques qui est presque ton double, qui est Jack?
Voilà, oui, en fait, donc ce Jack, en fait, il est tout à fait pluriel, donc c'est une comme je disais, pour moi c'est ce Jacques, c'est une espèce de contextualité, enfin, c'est un agrégat de contextualité, de temporalité processionnelle, et donc ces temporalités ont un double fonctionnement. Il y a un fonctionnement machinique et un fonctionnement un fonctionnement affectif, rationnel. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire fonctionner, c'était deux réalités qui peuvent paraître un petit peu contradictoires, quoi. Enfin, donc pour moi, ce qu'il y a de machinique, ce qu'il peut y avoir de machinique chez nous, c'est chez l'humain, c'est finalement tous les processus qu'on dit être inconscients ou les habitudes, les conditionnements, les choses comme ça, ou alors aussi dans le domaine économique, ce que nous vivons actuellement, quoi, les enchaînements comme ça d'erreurs ou de contradictions, de fonctionnement économique ou quoi, qui finalement des processus subjectifs et apparemment maîtrisables accumulés produisent des phénomènes comme ça qui des réactions en chaîne en quelque sorte qui font que qu'on ne maîtrise plus bien les choses et qui nous amènent à avoir des agissements qui ne correspondent pas à nos désirs. Voilà, donc en fait ce qui m'a intéressé surtout dans Simili Jacques, c'est de réfléchir sur ce qui se passe entre les contextualités, entre les phénomènes comme ça machiniques et les phénomènes désirants. Voilà, essayer de créer des réglages. Voilà.
Est-ce que c'est pour ça, donc, pour toutes ces choses-là, que Jacques est double? Il y a aussi Jacques, mais il y a aussi Jacqueline dans cette fiction. Qu'est-ce qui se passe entre eux deux? Quelle est cette dualité?
Voilà, donc en fait, justement, donc en fait, il y a un Jacques. Jacques écrit de façon tout à fait normale, quoi, qui est avec J-A-C-Q-U-E-S, qui est une qui pour moi symbolise une pluralité, justement, les cet agrégat de contextualité. Et puis il y a cette espèce de Jacques, J-A-K-E, qui est une espèce de neutre, un petit peu de fonctionnement comme ça, un petit peu qui pour moi symbolise justement des effets de saturation ou d'absence, au contraire. Et puis il y a ce personnage de Jacqueline. Alors Jacqueline, là, c'est assez particulier. C'est un personnage que j'ai pris. Ce sont des inserts de dialogue des didascalies du film de Judex. Parce que, donc, en fait, j'aime beaucoup Judex. Et en même temps, ces inserts qui sont, ce sont des didascalies qui sont absolument très froides, des observations justement. Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil objectiviste parce que c'est vraiment, je salue ce travail, ces recherches-là. Et donc, c'est justement, c'est ces petits blocs de texte comme ça, très froids et très descriptifs, qui se trouvent comme ça sous tension, mis sous tension, dans des blocs de texte beaucoup plus chaotiques, beaucoup plus, ou parfois presque un petit peu avec d'autres blocs de texte qui sont des sortes de journaux de science-fiction ou des citations philosophiques ou économiques, enfin des réflexions. Voilà, donc voilà un petit peu toutes ces composantes d'un sujet qui sont aux prises avec des réalités multiples.
Est-ce que Jacques est là dans Simili Jacques pour montrer comment une personne s'en sort dans le monde contemporain, dans le discours du monde actuel ?
Oui, oui, pourquoi pas ? Oui, oui, en fait, disons que c'est un livre comme ça qui, en fait, je l'ai présenté au départ comme une sorte de logosonoscope. C'est un petit peu un geste humoristique et que j'ai mis à la disposition. C'est une sorte d'outil qui amène le lecteur finalement à insérer son bloc de contextualité hétérogène qui le constitue à tel moment de sa vie, de l'enclencher sur ce bloc aussi d'hétérogénéité, mais qui n'est pas une hétérogénéité aléatoire, qui est une construction pour mettre à l'épreuve le lecteur pour recréer aussi en lui des formes de reparamétrage, de reconstruction d'identité, des identités forcément provisoires, mais qui peuvent éclairer des champs comme ça de réflexion ou d'action. Voilà.
Parce que la manière dont se présente Simili Jacques, moi, me donne l'impression qu'il s'agit également d'un journal. Il y a des dates qui apparaissent comme des balises. Est-ce qu'on ne pourrait pas être, ou en tout cas comprendre Simili Jacques comme étant le journal de Jacques ?
Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est un journal. Justement, c'est à l'intérieur de ce processus comme ça, de ce processus à la fois, je te dis, machinique et aussi donc un petit peu savamment chaotique, il y a cette avancée, comme ça, faussement ou problématiquement subjective, ce journal. Alors ce journal, je dois te dire que j'ai pris ce dispositif là à Ignace de Loyola. Ce sont des exercices spirituels. Donc ce journal c'est une espèce de mise à l'épreuve permanente de soi, quoi. Donc Ignace de Loyola comptabilisait toutes les larmes qu'il pouvait verser ou pas, selon les extases qu'il pouvait avoir. Donc c'est pour ça que donc au départ il y a ces dates comme ça un peu énigmatiques, puis petit à petit on se rend compte qu'il y a une comptabilité de larmes ces larmes, pour moi, bien sûr, c'était s'il y a extase, elle est bien sûr pas comme ça mystique Saint-Sulpicienne, mais c'est une référence un peu pour moi à m'alarmer, au au modèle de vision qu'il étudie dans l'après-midi d'un faune. Et donc pour moi c'est parce que ce livre là donc c'est aussi une réflexion sur la vision, sur le mode du voir, de la direction, voilà. Autant justement Ignace de Loyola procure aux gens qui le veulent des exercices spirituels pour justement à cheminer dans des espaces comme ça très incertains, et de même dans Similijac c'est aussi cet exercice là qui se met en place, quoi. C'est un exercice donc à la fois très personnel, très douce journal, mais à la fois il y a quelque chose aussi de un petit peu de rigoureux, un peu de presque de mathématiques, de voilà. C'est un petit peu pourquoi ce journal est présent dans ce livre.
On en arrive aux concepts qui sont fabriqués dans Similijac. Il y en a un que je vois souvent, c'est le logozonoscope. Que le logozonoscope?
Alors, le logozonoscope, donc en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est en fait, donc le livre lui-même se présente un petit peu comme un outil, c'est une espèce de machine, et qui est à la fois logo, donc c'est du langage, mais c'est une pluralité de langues, sono, parce que c'est sonore, en fait, pour moi, ce livre pourrait être très bien mis en scène, mis en espace, je souhaiterais tout à fait qu'il y ait un travail qui se fasse comme ça, et scope, parce que donc c'est aussi un livre très visuel, donc en fait... Je pourrais aborder ce sujet sous différents aspects. Déjà, quand on avait créé la revue Java avec Jean-Michel Spitalier et Vanina Maestri, on avait voulu mettre au point une réévaluation de tous les apports des avant-gardes. Et dans ce livre-là, justement, j'ai cherché aussi à réfléchir sur toutes les questions de visualité, donc référence à la poésie visuelle, à la poésie sonore, et j'ai essayé de renouveler toutes ces réflexions là, enfin de partir dans de nouvelles directions. Voilà, donc il y a une réflexion sur la couleur, une réflexion sur l'image. J'espère avoir réussi, enfin en tous les cas c'était mon intention de faire en sorte de mêler vraiment intimement la couleur des textes avec la couleur des images, et puis de jouer sur les contenus du texte et des images pour justement pixeliser le texte comme l'image elle-même et peut parfois être pixelisée. Voilà, j'ai voulu jouer aussi sur cet enchevêtrement là, enfin, faire passer aussi l'œil du lecteur au travers non seulement du texte, de l'image, et puis aussi du son, parce que il y a des montages de textes qui sont très très différents. Il y a des textes qui ne sont faits que de verbal infinitif. Il y a des textes qui sont écrits de manière plus traditionnelle. Il y a des textes. Après, il y a le texte que je dis être moléculaire, qui est le texte rouge, qui est il y a une apparence très très concassée et qui lui est conçu sans verbe, absolument sans aucun verbe. Voilà, donc c'est un petit peu tout cet agencement-là qui fait que ça produit pour moi logosonoscope.
Est-ce que Similijac fonctionne par plan? J'ai l'impression qu'il y a un art du cinéma dans Similijac.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, déjà, il y a des photos de cabines de cinéma. Donc il y a du matériel de cinéma dans ce livre, donc il y a une référence très forte au cinéma, et oui, il y a un montage cinématographique. De toute façon, j'ai été très très influencé par quelqu'un comme Godard. Pour moi, c'est Pour moi, Godard, c'est un grand poète. Pour moi, c'est avant tout un poète. Donc lui-même a fait ce travail comme ça d'insertion de texte dans l'image et inversement. Et donc oui. Mais alors donc ce montage, ces montages, on peut penser peut-être comme dans le cinéma aussi. Il y a des enchaînements dans les films, dans certains films, qui font que on est pris malgré soi. Enfin, il y a un enchaînement mécanique des plans. Et par contre, des fois, il y a des interactions qui sont peut-être qui demandent justement qui sont plus problématiques et qui demandent une intervention du regardeur qui crée lui-même du lien, qui s'insère entre les plans, qui joue un rôle comme ça de passeur d'un plan, de synapse un petit peu. Voilà, le spectateur devient un peu une synapse momentanée à l'intérieur de plans comme ça qui peuvent paraître comme ça problématiques.
C'est-à-dire que quand je lis Similit Jack, j'ai l'impression de voir un film expérimental, bien entendu, mais j'ai l'impression de voir un film avec différents plans, déjà parce que Similit Jack, tu l'as conçu très visuellement, avec des photos, de la bande dessinée, mais en même temps, il y a ces différentes voix. Tu as parlé du texte en rouge qui contient pas de verbe. Il y a aussi donc Jacqueline, hein, avec des textes très objectivistes, comme ça, très très courts. Et puis les apparitions de Jack, tout ça m'apparaît vraiment essentiel, non pas seulement visuel, mais cinématographique. Tout ça a un mouvement presque. On pourrait être devant un écran de cinéma. C'est quoi cette envie là de créer quasiment un objet comme ça cinématographique?
Disons, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais justement au tout début, quand je te disais que finalement la question du sujet, c'était des formes de temporalité processuelle. Et donc ces temporalités-là, ces espaces contextuels qui nous constituent et qui nous entourent font que donc il y a des fonctionnements à la fois machiniques et puis des fonctionnements comme ça plus construits ou plus chaotiques et donc ce livre se présente un petit peu au départ un peu comme un outil, comme une machine à pour se télé-réaliser, mais on se rend compte petit à petit que la machine disparaît et puis à certains endroits réapparaît pour reparamétrer finalement le fonctionnement général, recentrer finalement le regard du liseur, du regardeur. Et voilà, donc en fait, il y a aussi une certaine forme de narration aussi dans ce livre qui crée même si ça contredit beaucoup, même si c'est beaucoup plus ténu, mais il y a une certaine forme de flux, même si elle est plus très très subtile et certains lecteurs ne l'ont des fois pas vu. Et donc je pense que c'est cet aspect flux aussi qui pourrait rapprocher qui peut donner la sensation d'un film un petit peu, tu vois. Enfin, je sais pas si je réponds à ta question.
Si, en partie, parce que j'ai l'impression que Similit Jack fonctionne par page, mais par page visuelle, mais en même temps le texte lui continue de page en page, mais en même temps chaque page a un impact visuel fort, un jeu visuel entre texte et image, texte et illustration, qui fait que ça donne un fonctionnement par plan, mais en même temps avec, oui, tout, c'est ce que tu disais, un flux, un récit, il y a un récit.
Ben là je pense que tu as bien saisi, oui, la construction du livre, parce qu'en effet d'abord, certaines pages ont fait l'objet de d'affiches. Donc, c'est vrai que chaque page a été pensée comme étant une forme de bloc. Mais donc chaque page est une forme dispositale.
Comment est-ce que tu traites toute cette complexité fictionnelle?
Donc, en fait, ce sont des textes certains qui, au départ, notamment le texte Les Verbes à l'infinitif, le montage de Verbes à l'infinitif, c'était pour moi un texte qui était autonome. Et puis, petit à petit, j'ai écrit d'autres textes et je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité comme ça de faire fonctionner ces textes entre eux. À partir de là, j'ai d'autres possibilités textuelles se sont aussi agrégées à ce dispositif de départ. Puis aussi j'ai réfléchi sur l'image, sur les et finalement ce qui s'est passé, c'est que j'avais des textes assez divers et il a fallu que je les fasse fonctionner ensemble, mais en même temps tout en les faisant évoluer, parce que donc en fait la mise en contact de ces textes différents produisait justement de nouvelles contextualités de nouvelles textualités. Tout ça pour dire que finalement, on n'est pas toujours franchement l'auteur de ce qu'on fait, mais c'est aussi les contextes concrets qu'on suscite, les rapports qui font que des choses se mettent en place, des réalités contextuelles, des processus comme ça un petit peu machinique d'une certaine manière, mais aussi rationnel, de réflexion qui viennent un petit peu s'ajouter pour faire fonctionner cette espèce de machine logosonoscopique qui au travers de laquelle j'ai tenté petit à petit de me reconstituer, de me redécrire finalement, parce que c'est aussi un travail aussi de redescription de soi, parce que passer à travers cette multiplicité de filtres contextuels, bien sûr ça nous permet aussi de savoir finalement quelle partie de nous on laisse derrière, on laisse tomber, puis d'autres au contraire qui arrivent, qui s'agrègent à nous. Enfin, c'est nous-mêmes aussi qui nous métamorphosons, qui devenons un petit peu une autre, au bout de la lecture de ce texte, une autre réalité, une autre façon de voir le monde, une autre façon de le reconstruire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai envisagé.
Dans Simili Jack, j'ai été surpris d'avoir une intervention de la science-fiction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments de science-fiction qui viennent s'agréger à Simili Jack. Déjà, cette construction de machine fictionnelle, comme ça, c'est presque de la science-fiction. Mais bien souvent, j'ai l'impression que de la science-fiction apparaît là. Est-ce que tu en es conscient qu'il y a beaucoup d'éléments de science-fiction dans ton texte, hein?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, parce que, en fait, je lis de temps en temps des romans de science-fiction. Je suis très intéressé par ces univers-là, mais souvent je suis déçu parce que finalement ces romans décrivent comme ça des univers, comme ça des devenirs, des futurs possibles en quelque sorte. Mais d'un autre côté, dans une forme totalement classique et totalement univoque. Et donc finalement ça. En fait, je trouve que c'est une sorte de science-fiction, comme ça, de contenu science-fictionnel dans une antifiction, quoi, dans quelque chose de plutôt vieillot, quoi, donc qui contredit totalement des fois les propos du livre. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est, je pense que entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, mais formellement, j'ai voulu aussi faire un livre de science-fiction, parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que nous-mêmes, nous sommes toujours en devenir, en reconstruction permanente, en contradiction. Donc c'est cette vie science-fictionnelle que l'on vit finalement tous les jours, mais formellement, constitutivement, que j'ai voulu recréer aussi dans ce livre. Et j'ai voulu aussi créer aussi des univers un petit peu comme ça de science-fiction aussi, justement des contenus science-fictionnels pour étayer aussi cette démarche-là.
Alors on va retirer le mot science, on va garder juste fiction. Est-ce que Simili Jack ne serait pas une fiction après la fiction? C'est un agrégat de fiction, c'est une machine fictionnelle. On est tout le temps là dans des éléments de fiction, dans des éléments également objectivistes, mais que tu fais fictionnaliser. Est-ce qu'on ne serait pas dans une fiction après la fiction, dans une surfiction? Il y a un travail sur ce concept de fiction.
Oui, je pense qu'on est toujours dans une surfiction, puisque de toute façon, toutes les idées que nous avons, toutes les observations que l'on peut faire, toutes les convictions que l'on a, ce ne sont que des croyances en fait. Donc en fait, nous fonctionnons tout le temps, toute notre vie, tout ce que l'on peut dire à tout instant, ce sont des constructions de croyances, des constructions de fiction. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'on est perpétuellement dans une espèce de surfiction, et je pense que la réalité, c'est être conscient de ces processus comme ça, surfictionnels, dans lesquels nous sommes. Enfin, je pense que penser avoir la vérité absolue ou être dans des certitudes, je pense que là, c'est une façon de voir les choses assez dangereuse, quoi, pour moi.
Parce que j'ai envie d'utiliser ce terme de fantasme. J'ai l'impression que c'est un livre que tu as fantasmé pendant longtemps, que tu en as fait un propre objet de fantasme. J'ai l'impression que Simili Jack est à la fois un grand livre des fantasmes de Jacques Sivan en matière de fiction.
Pas tout à fait, parce que comme je te disais tout à l'heure, ce livre, justement, c'est pas un livre préconçu. C'est un livre qui s'est construit avec des matériaux épars que j'avais mis au point et qui petit à petit ont généré d'autres matériaux, et puis petit à petit quelque chose comme ça s'est mis à fonctionner et à me mettre en question, à m'amener sur des plans que je n'imaginais pas, et sur des conceptions, des visions de choses que je n'imaginais pas au départ. Donc en fait, bien sûr, d'un autre côté, c'est évident que c'est une recherche d'écriture. J'écris depuis quand même plusieurs dizaines d'années, donc en fait c'est une recherche. Donc il y a un processus comme ça de recherche sur la question du sujet, sur la façon de le redécrire, de le reconcevoir, de le reconstruire, de le réenvisager. Mais en dehors de ça, ce livre, je ne l'ai pas écrit comme on pourrait écrire une rédaction, avec un plan de départ et puis suivre ce plan. Non, c'est quelque chose qui s'est construit avec des matériaux que j'ai piqués ici ou là, très hétérogènes, et puis qui se sont agencés selon mes questionnements à tel moment donné de ma vie, quoi. C'est un petit peu ça.
Tu veux dire que tu ne l'avais pas dans ton imaginaire au préalable?
Je ne l'avais pas dans mon imaginaire tel qu'il est là, ça c'est certain. Enfin, j'avais des questionnements en moi, j'avais une volonté de trouver des réponses à des questionnements, à des contradictions que je portais en moi, et c'est par différents outils, différents matériaux, que petit à petit, ben voilà, enfin, en me retroussant les manches, j'ai essayé de construire comme ça quelque chose qui me faisait un petit peu, d'une certaine manière, passer au travers d'un scanner que je ne connaissais pas au départ, non. Voilà.
Ma dernière question, Jacques, porterait sur l'arrière-fond philosophique de ce texte, Simili Jack. L'arrière-fond notamment philosophique objectiviste, l'arrière-fond objectiviste américain, de toute cette philosophie objectiviste américaine, qui, je pense, est l'arrière-fond de tes conceptions textuelles. Est-ce que tu as toujours ça dans ta pensée, dans tes arrière-pensées quand tu crées?
Oui, tout tout à fait. Oui. Je réfléchis beaucoup sur ces questions-là, mais comme je te le disais en début d'émission, je n'y réfléchis pas. Enfin, j'essaye de ne pas avoir une approche naïve de voilà, de, enfin, comme par exemple on pouvait l'avoir, je sais pas, dans les années 70 ou même avant, dans le domaine de l'ethnologie, où on essayait de faire en sorte que l'ethnologue c'était quelqu'un d'absolument neutre, sans origine, sans rien, enfin sans contextualité justement, sans a priori, et puis qui allait, qui observait de manière absolument objective d'autres peuples, voilà. Donc après on s'est aperçu que tout ça c'était un leurre, voilà. Donc en fait cette objectivité là ne m'intéresse pas, et je pense que les objectivistes américains aussi étaient quand même assez conscients de ce genre de choses, hein. Enfin je pense que en fait s'il y a objectivisme, c'est cet objectivisme là il est dans des redescriptions de processus par des effets comme ça d'agrégats, de filtres, de dispositifs comme ça qui s'entrechoquent et qui font que finalement on peut voir si telle réalité résiste à tel contexte ou non, ou si elle est si elle apporte des solutions, si elle est opératoire ou si elle ne l'est pas, et voilà, etc. quoi. Voilà, pour moi c'est là que se situe l'objectivisme.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques, d'avoir bien répondu à mes questions.